Jean-Luc Buchelet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez d'écrire Le capitalisme et les sept péchés capitaux. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur cette économie qui va très vite, de plus en plus vite. Et finalement, le capitalisme, on a l'impression qu'il n'a plus tellement d'ennemis aujourd'hui. Il est partout. Qu'est-ce qui vous a amené à trouver finalement ces sept péchés capitaux?
Alors, j'ai fait une analogie avec les sept péchés capitaux, dans la mesure où le religieux fait un retour extrêmement important au cours de ces dernières années. Un seul exemple, en Union soviétique, avant la chute du mur de Berlin, vous aviez 17% de la population qui se disait catholique orthodoxe. Aujourd'hui, on est à 70%. Sachant que derrière ces sept péchés capitaux, vous avez la façon dont le monde s'est construit au cours de ces dernières années. Donc le capitalisme a gagné, faute de combattants. Et lorsque vous n'avez pas de contre-pouvoir, bien entendu, les systèmes vont jusqu'au bout. Et ils ne s'arrêtent finalement lorsqu'ils se trouvent confrontés non pas face au mur, mais lorsqu'ils s'écravent malheureusement contre le mur. Alors sur le monde d'aujourd'hui évolue à une vitesse considérable. Et le spectre dans lequel notamment les nouvelles technologies sont en train de modifier en profondeur le monde est stupéfiant. Et tout ça se fait en sous-jacent et souvent les responsables politiques ou même les responsables économiques sont un peu désemparés face à cette mutation profonde. Alors par le passé, nous avons connu des mutations qui étaient d'une grande profondeur, la première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, mais cette troisième révolution industrielle, elle a la particularité qu'elle s'attaque non plus à l'ensemble du système et des travailleurs, des gens peu qualifiés, elle s'attaque aux classes moyennes. Et donc, vous avez un bouleversement fondamental.
C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas... Enfin, si, que la classe moyenne, dans différents pays, elle s'en rend compte. Mais il y a un écrasement de cette classe moyenne
Voilà, donc vous avez un phénomène de polarisation qui est en train de se faire. Et si on prend l'exemple des États-Unis, qui est donc le leader dans le domaine des nouvelles technologies, on s'aperçoit qu'il y a une mutation totale dans le marché de l'emploi. Et donc, le taux d'emploi a baissé de façon considérable. On se retrouve à des niveaux qui remonte au début des années 70. Et surtout, l'intelligence artificielle et la robotique est en train de modifier des métiers qui auparavant étaient des métiers à haute valeur ajoutée. Donc si vous prenez, par exemple, dans le métier des avocats d'affaires, donc aux États-Unis, vous avez un robot qui a été lancé récemment, qui s'appelle Ross. Et le métier principalement de l'avocat d'affaires, c'est pendant plusieurs semaines faire étudier la jurisprudence. En l'espace de quelques secondes, ce robot fait la même chose, beaucoup plus vite, donc, mais surtout beaucoup, beaucoup mieux.
Ça veut dire qu'il y a plus de... Cette troisième révolution que vous évoquez, il y a plus de gens potentiellement concernés par rapport aux précédentes.
Voilà, par rapport aux précédentes révolutions, vous aviez les gens qui étaient finalement peu formés, peu spécialisés et plutôt sur des métiers qui étaient répétitifs. Là, vous attaquez directement l'ensemble de la population. Et donc, et on le voit très bien, donc vous avez un début de polarisation de l'emploi. Et dans les nouvelles technologies, la particularité, si on le regarde donc aux États-Unis, on s'aperçoit que si vous prenez la part des nouvelles technologies dans la création de richesses, dans la valeur ajoutée, on s'aperçoit que ça n'évolue plus au cours des dernières années. Donc c'est quoi le phénomène? C'est un partage entre les différents intervenants, sans création de valeur supplémentaire, et le gagnant dans ce système emporte toute la mise. Et donc, vous avez des grands groupes, donc notamment les GAFAM ou les BAT. Si on peut donner juste un chiffre, ça représente à peu près la capitalisation, donc la valorisation de ces entreprises, représente à peu près 1,5 fois la richesse française. Mais en face, vous avez quoi? Vous avez 650 000 employés. Donc, dans cette révolution, c'est le cost-cutting. C'est-à-dire que vous avez, si on prend l'exemple du téléphone, le téléphone a toujours existé, sauf que c'est le contenu même du téléphone. Entre le téléphone fixe que vous avez dans les années 60 et les iPhones, aujourd'hui, vous voyez bien que c'est toujours le même téléphone, mais vous avez de la valeur ajoutée qui se met à l'intérieur du système. Et les précédentes révolutions, qui étaient la première et la deuxième révolution industrielle, étaient des révolutions énergétiques. Et donc, elle changeait de façon en profondeur, notamment en termes de rentabilité. Alors, si on regarde au niveau de la croissance mondiale, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que cette révolution qui est énorme, qui est rapide, qui est d'une puissance incroyable, c'est-à-dire l'être humain a une capacité comme jamais, on s'aperçoit que la productivité n'arrête pas de baisser. On voit de l'informatique partout, on voit de la nouvelle technologie partout. Alors, les optimistes vous disent, par le passé, nous avions eu le même phénomène, c'est que d'abord, vous aviez donc cette fameuse phrase de Schumpeter, destruction créatrice. Et puis, donc, d'abord destruction des emplois, avec de nouveaux emplois qui viennent. Et donc, si on fait un peu la hiérarchie de ce qui s'est passé au cours des dernières années, on a eu, si vous prenez au début du XXe siècle, vous aviez à peu près 50 ou 60% de la population qui vivait de l'agriculture. Vous avez eu un transfert massif de cette population vers l'industrie. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est 2% de la population et qui nourrit largement avec des excédents, comme on le voit avec la baisse des prix des produits alimentaires, notamment ce qu'on constate aujourd'hui en Europe. Dans la deuxième phase qu'on a vécue, vous avez eu un transfert de l'industrie vers les services. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un transfert des services vers quoi? Bah vers ou le non-travail, ou vers le loisir, ou une organisation du travail complètement différente. Donc la puissance de cette technologie, si donc on peut avoir le meilleur comme le pire, si on régule un peu ce système, on peut bien entendu largement en profiter. Donc il faut repenser le monde, et alors en plus le changement est tellement rapide, vous voyez bien que la difficulté à transformer ce système.
Oui, parce que là, on est sur ces transformations que vous évoquez. On pose de plus en plus de questions sur la moralisation du capitalisme, et puis on voit ces sociétés qui profitent du système, un système qui est légal d'ailleurs. Si on prend les GAFA en Europe, il y a un vrai débat là-dessus, comment taxer les GAFA. On voit bien que c'est compliqué parce qu'elles ont quelque part un poids plus important que certains États.
Alors, la problématique dans le développement actuel, c'est que vous avez des entreprises qui deviennent apatrides et qui n'ont comme volonté que la croissance pour la croissance, avancer pour avancer, comme la bicyclette qui avance, sans savoir pourquoi. Et donc, dans ce système, il y a un des chapitres, ce qui est le capitalisme est-il moral. On ne peut pas demander aux entreprises d'être morales ou quoi que ce soit. L'entreprise a comme fonction de conquérir des parts de marché, de faire du profit, d'améliorer la marge. Et donc, la problématique qu'on a vécue ces dernières années, c'est que le politique s'est dérobé. Et donc, il faudrait qu'il y ait un retour. C'est ce qu'on assiste aujourd'hui de façon quand même plutôt assez positive, notamment grâce à Trump aux États-Unis, qui fait qu'en Europe, on commence à prendre conscience des effets délétères que peuvent avoir la construction dans laquelle s'est faite le monde au cours des 20 dernières années. Donc, le capitalisme, l'entreprise, est amorale. Et donc, il faut qu'au-dessus, vous ayez des relais, et donc la loi, et le politique, et l'éthique, qui puissent prendre le relais de façon à ce qu'on ait quelque chose qui puisse permettre à tous les gens de vivre correctement. Donc on connaît les chiffres. Dans ce capitalisme débridé, vous avez une concentration des richesses. Et le phénomène des nouvelles technologies a tendance donc à mettre une pression très forte sur les salaires. Comme les salaires dans le monde, c'est à peu près 60% de la valeur ajoutée. Donc si les salaires ne progressent plus, la consommation ne progresse plus. Et je vous ai dit, dans ce système, c'est la croissance pour la croissance.
Oui, on entend des financiers dire qu'il faudrait peut-être un revenu universel parce qu'effectivement, il n'y a plus de la consommation est trop faible.
Alors, je vais répondre à cette question, mais juste pour terminer mon raisonnement. Donc, vous avez un système qui rentre en déflation, et donc l'inflation, même négative dans certains pays, fait que les banques centrales, pour lutter, parce que c'est la pire des choses, qu'est-ce qu'elles font? Donc elles abaissent les taux d'intérêt de façon significative pour essayer de reflater l'économie. Elles injectent de la liquidité dans le système, mais cet argent va où? Elle va à la spéculation, et notamment sur les actifs et sur l'immobilier. Et donc le paradoxe de ce système, c'est que cette mondialisation auquel on rajoute dessus la robotique et l'intelligence artificielle abaisse de façon importante l'inflation et ne fait qu'accentuer les écarts de richesse. Et donc il va falloir certainement repenser le système dans sa globalité. Et donc vous parliez de revenu universel. Alors le problème du revenu universel, c'est que je ne vois pas l'intérêt de verser une somme à l'ensemble de la population. Moi je propose plutôt un crédit d'impôt universel. C'est-à-dire que dans ces mutations, vous allez avoir des gens qui vont sortir du système. Et donc il va falloir renforcer la formation pendant ces périodes d'inactivité. Vous allez avoir le temps de travail qui va être réduit. Et donc il faut, pour les gens qui n'ont pas un revenu suffisant provenant de leur travail, leur accorder donc un crédit d'impôt universel, mais on va toucher qu'une partie de la population, et là, dans ce cas-là, c'est finançable. Et vous n'avez pas les critiques qui vont se faire en disant on donne de l'argent pour ne rien faire.
Vous parlez donc de 7 péchés capitaux, on ne va pas avoir forcément le temps de les évoquer tous, on en a évoqué un certain nombre avec vous. Sur le fond, est-ce que ça veut dire quand même que le capitalisme peut se réformer? Est-ce que c'est votre conviction? Ou est-ce que le capitalisme étant seul aujourd'hui, on va dire, il ne se réformera pas tout seul?
Alors, la solution, on le voit, si on parle du réchauffement climatique, si on parle de problèmes de richesse, si on parle des problèmes géopolitiques, ça ne peut se résoudre que de façon globale. Donc le G20 était un réceptacle qui aurait permis d'essayer d'avancer, mais on va dans le mouvement inverse. Donc c'est le péché de colère où on s'aperçoit que finalement le monde est en train plutôt de se refermer et ne pas confondre protection et protectionnisme. Et donc les frontières sont en train de se rétablir et on sait que la fermeture du monde, c'est quand même une très mauvaise idée. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, on ne va pas vers la bonne direction. Et alors j'ai un chapitre aussi qui est très important, qui est celui du bonheur, et de voir s'il y a une corrélation entre la croissance et le bonheur. Donc toutes les études qui ont été faites sur ce qu'on appelle le bonheur subjectif, lorsqu'on interviewe quelqu'un, on lui pose la question s'il a un bien-être plus ou moins important avec une échelle de 1 à 10. Et lorsqu'on regarde ce phénomène, on s'aperçoit que si on prend des pays comme les États-Unis qui ont connu une croissance stupéfiante de la richesse par habitant, on s'aperçoit que le bonheur ressenti est plutôt stable. Alors, c'est ce qui veut dire que la croissance ne crée pas de bonheur, mais de façon, par contre, extrêmement négative, la décroissance crée énormément de malheur. Donc, je cite juste un exemple dans mon livre. Une personne qui a été au chômage pendant le chômage de longue durée a un mal fou à retrouver son bonheur initial. Et paradoxalement, lorsque vous perdez votre conjoint ou votre conjointe, vous apercevez que vous avez plus de facilité à vous remettre sur le chemin du bonheur que lorsque vous êtes chômeur. Et donc, on comprend bien. Et alors, le bonheur, et l'être humain a été constitué comme ça, c'est-à-dire qu'on regarde toujours ce qui est au-dessus et jamais ce qui est en dessous. Et donc, ça crée des frustrations. Alors, c'est un moteur extraordinaire pour le capitalisme parce qu'on a toujours envie plutôt d'avoir ce qui est au-dessus et on ne se satisfait jamais de son propre bonheur. Si vous prenez un exemple simple, si vous avez une piscine et si à côté de chez vous, vous avez quelqu'un qui a deux piscines, vous allez être le plus malheureux de la Terre. Et donc, un des moyens un peu de se protéger face à ça, c'est un peu diversifier ces relations. Le problème, c'est qu'on vit tous dans notre niche comportementale. Donc,
et on parlait des GAFA qui nous incitent à avoir des amis qui pensent la même chose que
voilà,
nous.
alors là encore, dans ce système, c'est que vous avez des bulles cognitives qui sont constituées autour des gens, et donc on leur sert sur le plateau ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qui pousse quand même pas à la réflexion et à se remettre en question. Et donc, je vous dis, les nouvelles technologies, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il va falloir quand même le réguler, il va falloir repenser la façon dont on va les utiliser. Vous avez des tas d'études qui vous montrent que l'utilisation excessive, et on le voit très bien chez les jeunes enfants, crée des phénomènes qui ressemblent à l'autisme et autres. Et donc là, il va falloir quand même essayer de repenser. Alors, donc il y a une idée récente, c'est d'interdire les téléphones portables à l'école. Je pense que ça serait une très bonne idée. Et alors, je termine sur le chapitre qui est les portes du paradis, puisqu'il faut essayer de trouver quand même des solutions. Et fondamentalement, on connaît les problèmes. Ça fait 20 ans qu'on tourne autour des choses. On sait comment résoudre les solutions. Et le seul moyen pour pouvoir y arriver, c'est d'essayer de se mettre tous autour de la table et de travailler de façon collective. Et je rappellerai donc une phrase assez célèbre, il faut réapprendre aux futures générations, à nos jeunes générations, l'unité et l'humanité.
Ben voilà, ça sera le mot de la fin, un mot positif. Merci. Donc, on lira ces 7 péchés capitaux. Merci, Jean-Luc Béchalet.
Merci.